Une heure en France, Denis Farrou, Frédéric Le Ternier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Une heure en France. Bonjour Denis Farrou.
Bonjour Frédéric Le Ternier.
On tourne les pages d'un almanach ce midi avec des histoires au quotidien. On prépare la disparition des cotons-tiges en plastique, ce sera au 1er janvier. Et on prépare ça avec un couple de Bretons qui a lancé un tout nouveau produit. Et puis on va visiter aussi une église du Calvados qui vient de retrouver un tableau disparu il y a plus d'un siècle. Voilà le programme avec l'invité du jour.
Laurent Vibert, un spécialiste en communication de crise, alors que les sites Céveso font reparler d'eux, à commencer par Rouen, évidemment.
Une heure en France, le patrimoine, l'histoire de nos régions, les auditeurs invités et l'actu du jour. C'est avec Simon de Faux-Compré.
Et bonjour Simon.
Bonjour à tous.
La crise Lubrizol s'invite sur les bancs de l'Assemblée nationale.
Oui, 5 jours après l'incendie de cette usine chimique rouennaise classée Céveso, les députés de Seine-Maritime ont prévu d'interpeller Édouard Philippe, le Premier ministre, cet après-midi pendant les questions au gouvernement. Hubert Vulfranc, député communiste, était avec lui sur place à Rouen hier soir. Il estime possible qu'on déclenche l'état de catastrophe technologique.
Il y a des préjudices de fait pour les collectivités, pour les communes, mais aussi sur des particuliers, les exploitants agricoles, les artisans, les commerçants, et les salariés. On entend ici et là, effectivement, des salariés qui ont besoin d'un suivi médical, par exemple. Donc, autant de préoccupations qui peuvent se traduire très concrètement par des préjudices moraux, sanitaires, mais aussi des préjudices financiers.
Les résultats des analyses sont évidemment très attendus. Ils arriveront d'ici un ou deux jours, selon le gouvernement. On sait aussi qu'au moins 1800 agriculteurs ont subi les retombées de fumée, de suie et d'hydrocarbures. Les premières indemnisations sont attendues dans 10 jours, elles. Syndicats et associations appellent à manifester devant le palais de justice de Rouen ce soir à 18h.
Et c'est dans ce contexte qu'on a appris la mise à l'arrêt d'une autre entreprise classée Céveso ce matin, située à 3 km à vol d'oiseau de l'usine de Lubrizol de Rouen. Borealis, un fabricant d'engrais, a arrêté les machines à cause d'un problème d'électricité.
Et on parle beaucoup des sites industriels classés Céveso, c'est-à-dire potentiellement dangereux à cause des produits utilisés. Mais il faut savoir, Denis, que ça concerne pas que Rouen, ça concerne tout le monde. On en compte 1200 partout en France.
Les riverains de ces zones demandent plus de transparence sur les risques encourus. Nous allons voir ce qui est fait et ce qui ne l'est peut-être pas avec un spécialiste de communication des gestions de crise.
La suppression de l'impôt sur la fortune a surtout profité aux plus riches. 2 ans après la fin de l'ISF, c'est le constat d'un premier rapport du comité de suivi de cette réforme. Les 5% les plus aisés, en détail, ont vu rentrer 6 500 € supplémentaires par an dans leur caisse. Les effets plus généraux sur la croissance et l'emploi ne sont pas encore mesurables. 13h de France Bleu, enquête ouverte par le parquet national antiterroriste aujourd'hui.
En réaction à un nouveau groupe radical corse revendiquant du FLNC, le Front de Libération Nationale Corse, un mouvement nationaliste créé il y a plus de 40 ans.
Ces nouveaux indépendantistes ont affirmé qu'ils mèneraient des actions pour sauvegarder l'identité corse, comme par exemple interdire les non-corses d'acheter une maison ou limiter le tourisme à 600 000 personnes par mois pendant l'été. C'est le moment de vérité pour Nicolas Sarkozy.
Oui, après plusieurs recours, l'ancien président va savoir aujourd'hui s'il sera jugé ou pas dans l'affaire Big Malion. Il est accusé de financement illégal dans sa campagne électorale de 2012.
Et pour ça, l'ancien chef d'État risque 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Édouard Balladur et François Léotard vont bien être jugés, eux. Décision de justice ce matin. Les deux anciens ministres ont été mis en examen il y a 2 ans dans l'affaire Karachi. Éclairage de Margot Steve.
Ce que l'on reproche à Édouard Balladur et François Léotard, c'est d'avoir touché des rétrocommissions, des sommes d'argent donc, en lien avec des contrats d'armement, des ventes de sous-marins au Pakistan et de frégates à l'Arabie Saoudite. Des rétrocommissions qui auraient ensuite servi à financer la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. Dans le détail, l'ancien Premier ministre Édouard Balladur est renvoyé devant le tribunal pour complicité d'abus de biens sociaux et recel. Son ancien ministre de la Défense, François Léotard, lui sera jugé seulement pour complicité d'abus de biens sociaux. Cette affaire Karachi très complexe avait été dévoilée après l'attentat de Karachi le 8 mai 2002. Attentat qui avait fait 14 morts, dont 11 employés de la direction des constructions navales au Pakistan.
Les familles de ces victimes de l'attentat de Karachi sont satisfaites par ce renvoi au tribunal. Annonce de leur avocat ce matin. Retrouvez un résumé de cette affaire Karachi sur francebleu.fr.
Une filiale belge du voyagiste Thomas Cook a fait faillite 8 jours après l'effondrement du groupe britannique.
Ouais, cette filiale qui emploie 500 personnes, c'est l'une l'une des nombreuses conséquences économiques liées à la chute de cette agence de voyage. Des centaines de milliers de touristes ont dû être rapatriés à travers le monde. Des hôtels ont fermé. 9000 emplois ont sauté au Royaume-Uni. Et la branche française de Thomas Cook demande un redressement judiciaire. Il va être examiné dans une heure au tribunal de commerce de Nanterre. Après le Real Madrid, les footballeurs parisiens veulent confirmer en Turquie. Ils affrontent Galatasaray ce soir à 21h pour leur deuxième match de Ligue des Champions. 800 ultra-parisiens attendus dans les tribunes contre 50 000 supporters turcs. À domicile donc, il va falloir donner de la voix.
Eh bien, ils donneront de la voix sans doute. Et demain, vous parlerez de Lille et de Lyon parce que Lille et Lyon jouent demain, on est d'accord.
À 21h également, les deux clubs français. Et Denis, est-ce que vous savez ce qu'on célèbre aujourd'hui partout dans le monde?
Pas vraiment, à vrai dire.
Ça devrait vous plaire, c'est la journée internationale du cacao. Et ouais. Nous, en France, on en a quand même une bonne consommation. 7 kilos de chocolat par an, c'est pas mal quand même.
Vous savez que c'est la journée du café également. Un petit expresso avec un petit carré de chocolat et ça roule.
Après le repas, c'est parfait pour digérer. Et un petit coup de météo. Allez, un mois d'octobre qui commence de manière plutôt agitée. Pluie et orage sur une large diagonale entre les Landes et les Ardennes. Sur la côte atlantique, du vent jusqu'à 70 km/h et des averses attendues. Le sud-est échappe au gros de la perturbation avec du soleil et quelques nuages bas.
15 à 18 degrés sur la Bretagne, 20 à Strasbourg, 20 à Mâcon, 21 à Agen, 23 à Annecy, 24 à Marseille, 25 à Ajaccio. 17 degrés à If, dans le Calvados, où nous allons tout à l'heure pour une histoire de tableau. Merci Simon.
Merci
de
Denis.
Fauconpret. L'invité spécialiste en communication de crise arrive dans un instant.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.
Un accident il y a une vingtaine de minutes sur l'A86 intérieure au niveau de Gennevilliers. Une moto, un camion et une voiture sont impliqués. Ça commence à bien ralentir en amont. Pour l'instant, vous en avez pour 12 minutes de Nanterre à Gennevilliers. Deux accidents également sur l'A4, à chaque fois dans le sens Paris-Province. Donc si vous partez vers Strasbourg depuis le sud-est parisien, vous serez d'abord ralenti à hauteur de Saint-Maurice, puis plus loin de Logne à Bouleur en Seine-et-Marne. Et puis une perturbation à vous signaler sur le RERC, le trafic est interrompu entre Dourdan et Brotigny dans les deux sens. Il y a eu un accident de personne à Saint-Chéron. Retour à la normale vers 15h30.
L'invité d'une heure en France est le PDG de Nitidis, l'agence spécialisée en communication de crise et gestion de crise. Bonjour Laurent Vibert.
Bonjour.
Les populations réclament la plus grande transparence lors d'un accident. Une manifestation est annoncée à Rouen ce soir. Est-ce qu'à votre avis, elles ont été suffisamment et sont toujours suffisamment informées?
Alors, elles l'ont été, peut-être pas de la meilleure des façons, c'est ce qui est reproché au travers des nombreux reportages que vous pouvez faire, notamment sur France Bleu et sur les autres médias. C'est-à-dire qu'on a un décalage entre l'importance des faits et cette situation de catastrophe, hein, qui est, on le rappelle, celle qui suit en intensité à ZF à Toulouse, et la communication qui a voulu, semble-t-il, être beaucoup trop protectrice au départ, peut-être protéger les intérêts institutionnels plutôt que de protéger la population dans une information juste et vraie et dans un équilibre entre les faits, je le rappelle, et ce que l'on attend de des secours, mais ce qu'on en attend aussi de la population. C'est-à-dire qu'il faut être aussi interactif avec les citoyens français, c'est ce qui a manqué.
Oui, d'autant qu'un autre site, Céveso, près de Rouen, qui produit des engrais, est à l'arrêt depuis ce matin pour des raisons de sécurité. Un incendie s'est déclaré sur un site Céveso à Toulouse sans répercussion apparente. C'est vrai que c'est un enchaînement qui commence à inquiéter forcément.
Alors, c'est toujours aussi le fait du phare et du spot que l'on met sur ces installations Céveso. Il y a en effet des zones de danger, des potentiels risques qui sont avérés calculés. Maintenant, je pense que ce qui manque réellement dans l'organisation de la planification et de la protection de ces sites et surtout des populations et de l'environnement, ce sont notamment des formations des entreprises, formations des acteurs, mais avec l'ensemble des participants et des parties prenantes, c'est-à-dire l'État, les secours, mais également les entreprises, et ne pas jouer un seul scénario de crise, comme c'est souvent fait avec une seule entreprise qui joue ce qu'on appelle son POI, son plan d'organisation interne, mais au contraire, peut-être imaginer le worst scénario, c'est-à-dire le scénario du pire, de manière à ce que l'État et ses partenaires soient beaucoup plus préparés à ce genre de situation cataclysmique.
Oui, parce que les plans de prévention existent de fait tout de même.
Ils existent, ils ont été renforcés, la loi de Céveso appliquée en 2000. est là aussi pour augmenter la résilience et limiter l'impact de catastrophes sur la population et l'environnement, mais je pense que c'est encore insuffisant, là encore, et pointé parfois du doigt, les visites, les drainages, la capacité qu'ils ont en nombre de personnel, d'inspecteurs pour pouvoir vérifier les sites, et puis la contrainte réelle, qu'est-ce que l'on peut imposer, quelle est la norme, quel est l'équilibre, là encore, entre la prévention, l'application des plans, et puis la réelle ou le réel caractère à risque de ces installations.
Laurent Vibert, deux communes d'Île-de-France, Grigny et Ris-Orangis, demandent le départ de sites Seveso de leur territoire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Rouen est peut-être le départ d'une prise de conscience plus aiguë des risques en France? Et là, on englobe les 1200 à 1250 sites Seveso.
Moi, je partage, si vous voulez, cet état d'esprit, de se dire soyons lucides et regardons, analysons avec précision ce que l'on a pu laisser faire depuis des décennies, et la réalité qui est un monde de plus en plus sûr, mais de plus en plus dangereux. Il faut là encore que l'ensemble des acteurs puissent se projeter dans une analyse de risque peut-être beaucoup plus adaptée à l'augmentation de la population, à la densification des villes, à la protection de l'environnement. Et on voit bien que c'est quelque chose de phare, que la population a des réelles demandes, donc il faut aller dans ce sens. Maintenant, c'est en effet accident-là, et je le rappelle, et tant mieux, il n'y a pas de bilan humain, donc à part, et bien sûr on pense à eux, à ceux qui ont été intoxiqués, mais imaginez qu'il y ait eu un sinistre avec des morts et de nombreux blessés, je pense qu'on aura encore un focus plus grand. Et puis, c'est aussi de la question de crise, malheureusement le président de la Chine a quitté le jour de l'incendie du Brizol.
On va s'arrêter là, oui, Laurent Vibert. Non, pas du tout, je ne remets pas en cause ce que vous dites, mais c'est la liaison qui s'est écartée un peu.
D'accord.
Mais on a compris l'essentiel. Laurent Vibert, merci d'avoir passé quelques minutes avec
Merci
nous ce midi. Le patron de Nitidis, l'agence spécialisée en communication de crise et gestion de crise, c'est également l'ancien porte-parole des pompiers de Paris.
Une heure en France, Denis Farrou, Frédéric Le Ternier.
Et aujourd'hui, on va feuilleter le nouvel almanach de l'historien Frédéric Gersal. À chaque jour, des bons mots, des recettes, des trucs et astuces et puis des histoires.
Nous, on aime bien qu'on nous raconte des histoires.
Ah oui.
Et il y en a une par jour puisque c'est un almanach. Vous dites almanach ?
Almanach, oui, vous dites quoi, vous ?
On dit almanach, on dit comme on veut,
On dit comme on veut. Ensuite, nous sommes en Bretagne, où un couple a trouvé une alternative au coton-tige en plastique voué à disparaître en 2020.
2020, au 1er janvier, c'est-à-dire là, dans 3 mois. Recomptez. Octobre, novembre, décembre. On va découvrir le cure-oreille sans plastique et sans coton.
Et puis on va passer en Normandie où une toile a été retrouvée plus de 100 ans après sa disparition. Elle a donc été exposée lors des journées du patrimoine dans son église d'origine.
Elle a été retrouvée par un antiquaire de l'Aveyron. Où était le tableau pendant un siècle, vous le savez, vous ?
Non, on va poser la question à notre invité, je pense. Vous êtes sûr que ça fait 3 mois ?
Dans 3 mois, nous serons en 2020.
Très bien, c'est noté. Restez avec nous, Une Heure en France se poursuit jusqu'à 14h. Et avec, comme chaque jour, eh bien, vos initiatives, on va encore le voir aujourd'hui. Notre patrimoine est de jolies histoires. Sur France Bleu, il est 13h14.
Rappelle-toi comme elle est belle. Et touche-la et sans le sel. C'est un don miraculeux. Bien que de l'eau de pluie.
Rien que de l'eau, Véronique Sanson qui a sorti récemment un très bel album de duo qui s'appelle Duo Volatile. Vous connaissez cet album, Denis Farou ?
Oui, mais elle chante avec qui ?
Plein de gens, il y a Juliette Armanet, il y a Patrick Bruel, il y a Lavillier, enfin bon, je ne vais pas tous vous les faire, mais non. C'est un très bel album, je vous le recommande. 13h17 sur France Bleu.
Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Alors, est-ce que vous faites partie de ceux qui ont toujours un almanach sous la main pour suivre les saisons, pour découvrir des terroirs, des histoires locales ou nationales ?
Nous parcourons le grand almanach 2020 qui est sorti avec des bons mots, des recettes, des faits divers, des anniversaires, du jardinage, des scènes historiques, des trucs et des astuces.
Vous connaissez l'auteur du grand almanach, nous aussi d'ailleurs, car vous le voyez dans Télématin sur France 2 et sur France 3 aussi, et peut-être que vous allez le voir en conférence ou en spectacle, il est là. Bonjour Frédéric Gersal.
Bonjour Frédéric, bonjour Denis, merci de m'inviter, je suis ravi.
Bonjour Frédéric. On a fait un jeu avec Frédéric, parcourir l'almanach et se focaliser sur un sujet. Frédéric, ce sont les grillons dans le métro à Paris. Mm-hmm. Oui, je sais, c'est un peu bizarre.
Non.
Moi, c'est le calendrier, l'histoire du calendrier. D'où vient notre calendrier qui vous sert de base d'ailleurs pour l'almanach, Frédéric Gersal?
Vous avez tout à fait raison, c'est la base. Effectivement, c'est pour ça qu'il est placé au mois de janvier 2020. C'est une des premières pages, un des premiers articles écrits, parce qu'il faut qu'on comprenne que ce calendrier, bien, c'est ce qui rythme notre vie. Et on le doit à qui ? On le doit à quoi ? Eh bien, on le doit à la nature, on le doit aux astres, on le doit justement à ce calcul entre le soleil et la terre et la lune. Et depuis toujours, les hommes se sont tournés vers ces astres pour connaître le rythme qu'ils doivent eux-mêmes adapter ou adopter, suivant la nature, évidemment. Alors ça a beaucoup changé, parce que les calculs étaient faux pendant très longtemps, et donc il a fallu se remettre d'aplomb, à la fois avec Jules César, avec le pape Grégoire, d'où ce calendrier grégorien qui est le nôtre.
Et un calendrier républicain avait remplacé le grégorien, mais il n'a pas perduré celui-là.
Alors non, très justement, vous le dites, il est républicain, il est révolutionnaire, c'est-à-dire que ça s'explique tout seul. Il a été valable pendant la Révolution, on le devait à Fabre d'Églantines, qui avait trouvé les noms des mois, les noms des jours. D'ailleurs, tout cela figure dans cet almanach, à droite ou à gauche, mais tout en bas, il y a le nom du jour du calendrier républicain, avec souvent des fêtes étranges, puisque ce n'était pas les saints de l'Église, évidemment, qui étaient fêtés, ni les prénoms, mais des outils. Ou des fruits, des légumes, bref, la nature.
Voilà pour le calendrier, ben c'est à vous.
Oui, alors
pour
c'est
les...
très gentil tout ça,
pour
mais
les grillons,
passons
Frédéric
à une histoire vraiment intéressante, celle des grillons. Il y aurait des grillons dans le métro parisien et ça fait un moment que ça dure, Frédéric Gersal.
Eh ben depuis l'inauguration, figurez-vous, inauguré en 1900. Pourquoi un métro en 1900 ? Ben d'abord, c'est une vraie révolution à Paris, évidemment. Il a fallu creuser, se enterrer tout cela. Et on le doit à Fulgence Bienvenue, qui a laissé son nom à une des stations de métro, Montparnasse Bienvenue. Et ça date de 1900, pour l'exposition universelle. Et du coup, sont arrivés, en même temps que les rails, en même temps que les wagons, en même temps que les passagers, eh bien sans doute dans des cajots de fruits ou de légumes ou d'épices, les grillons, qui se sont installés dans le métro. Et la chaleur du métropolitain, c'est-à-dire la chaleur auprès des voies, des rails, avec le passage des trains, avec la foule qui est là présente, et puis quelques petites ordures qu'on jette et qu'on ne devrait pas jeter. Maintenant, il y a des poubelles partout, c'est bien mieux. Mais jadis, évidemment, on laissait peut-être des miettes de pain, des mégots. Maintenant, ça n'est heureusement plus possible. Et tout ça, ben, nourrissait les grillons qui, avec la chaleur, copulaient aisément, et puis du coup, ça se multipliait.
Et on peut les entendre encore aujourd'hui, les grillons, dans quelle station de métro, Frédéric Gersal ?
Alors, on a du mal à les entendre. Figurez-vous que la station Saint-Augustin, qui est sur la ligne 9 dans le 8e arrondissement, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui connaissent
sont à Paris,
un, peu, ou un petit peu la carte de Paris et qui viennent de temps en temps, eh ben, à Saint-Augustin, c'est là qu'il y a le plus grand nombre. De là à les entendre, je trouve que le métro et les gens sont beaucoup plus bruyants que les grillons.
Voilà pour les grillons. Pour terminer, Frédéric Gersal, on s'est régalé à la lecture de la page 3, du 3 mars, pardon, ouais, avec le nom des chants d'oiseaux. Alors, on en connaît quelques-uns, mais alors pas tous, loin de là. On vous écoute, Frédéric.
Non, bah écoutez, moi j'étais fasciné par le hibou, c'est un des tout premiers par ce qui est dans la liste. Pourquoi ? Parce qu'il y a une multitude de mots. Il y a bubule, il ulule, il miaule, il cutube. Et souvent, ce sont des mots, alors qu'ils sont soit des onomatopées, c'est-à-dire qu'on entend bien le cri et le chant, soit ce sont des mots régionaux. Alors là, c'est où c'est fascinant. Et à France Bleu, on sait combien nos régionalismes sont importants. Mmh. Et ben justement, il y a des mots qui sont... Je prends juste un exemple. Moi, je suis dans le Poitou. Eh bien, la pie, elle bavarde, elle jacasse. Mais nous, on dit qu'elle ajasse. et du coup ça a donné le nom à la pie. Quand on parle du Naja dans le Poitou, eh bien c'est une pie, ni plus ni moins.
Non mais franchement, le hibou bouboule, vous inventez, c'est pas possible.
surtout quand il se tasse, vous savez, il fait bouboule, donc il fait tout en fait, le cri, l'allure, il est tout rond, il est plein de plumes, on a envie de le caresser, mais il ne faut surtout pas y toucher.
Et la corneille, elle babille, elle graille, elle corbine, elle craille, c'est incroyable. Le dindon, il glouglotte, mais il glougloute.
Ah oui,
il glougloute aussi.
Ah oui, vous avez raison. Alors le dindon, vous savez que ça n'existait pas du tout en Europe, ce sont les navigateurs qui l'ont découvert en arrivant en Amérique, là, les Christophe Colomb et leurs successeurs. Ils ont cru qu'ils arrivaient en Inde. Ils voient cet oiseau, ils vont l'appeler la poule d'Inde, donc ça va devenir la dinde. Et le dindon. Et il y a une très vieille histoire des Indiens d'Amérique qui nous raconte que c'est le dindon qui a sauvé l'humanité de la disparition du feu. Il s'est porté volontaire pour agiter ses ailes pendant des heures, des jours, des mois entiers pour maintenir une brindille allumée pour pouvoir conserver le feu. C'est ce qui lui donne justement cette allure toute rouge depuis le bec jusqu'au cou. C'est bien ça aussi. Vous glougloutez.
Alors non mais il faut quand même que je vous dise, vous qui êtes à l'écoute, oui. C'est vraiment Denis Farou qui fait une imitation.
Bien le dindon.
Oui, vous le faites très bien, un de vos autres talents. En tout cas, allez découvrir cet almanach, ce grand almanach signé Frédéric Gersal. Vous nous avez donné sacrément envie de découvrir les autres pages. C'est sorti aux éditions Métive. Il y a de bons mots, recettes, fêtes d'hiver, anniversaires. On va apprendre beaucoup de choses pour cette édition 2020.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci de votre invitation.
Frédéric, vous dites almanach ou almanach ?
Moi, je dis almanach, mais voilà, tout est possible peut-être.
Voilà. Vous dites comme Frédéric.
Exactement.
Frédéric Gersal, merci beaucoup. Bonne journée à vous. À bientôt.
Merci à vos auditeurs. Au revoir.
Et nous, on joue, on poursuit une heure en France avec une montre France Bleu Sport qui est magnifique et vous attend. Dites-nous, il existe un dicton célèbre concernant la Saint-Médard et la météo. C'est s'il pleut à la Saint-Médard, il pleuvra, combien de jours plus tard? À votre avis, bon, on ne fait pas rentrer Saint-Barnabé, tout ça, on sait que s'il lui coupe l'herbe sous le pied, mais bon. Donc alors, s'il pleut à la Saint-Médard, il pleuvra combien de jours plus tard? J'ai des propositions. Est-ce que c'est 40 ou 60 jours plus tard?
Vous avez fini de bavarder, d'agacer, de jacasser, de jaser, comme la pie?
Bah écoutez, j'ai encore des choses à dire malheureusement. Vous nous appelez au 0810 055 056 et puis vous restez avec nous. On a trouvé une alternative au coton-tige. Ça, c'est un couple de Bretons qui nous propose une innovation. Et puis à 13h45, on va vous raconter l'histoire d'un tableau retrouvé en Normandie plus de 100 ans après sa disparition. Mais tout de suite, on continue en musique. En musique avec Pedro Capo, Calma Alicia Remix. On vous laisse découvrir, c'est un tube sud-américain qui sonne très très bien, c'est maintenant sur France Bleu.
Welcome to the paradise.
Sun pours down upon your face. I wake up, feel heavenly. Out of bed, I start to taste the sound that the record play in your hands, in my hands, letting go of everything else. All I wanna know is this. Vamos pa la playa, pa curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas.
Echa que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa a chinchorrear. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría pa' que te suelte.
Pantalla, abre la medalla.
Todo
Georgie Noriega, REC 808,
Shadow Towers,
Puerto Rico.
Welcome to the paradise.
Et on va tous les remettre dans l'ordre parce qu'ils sont nombreux. Hein. Il y a Pedro Capo, Farruka et Alicia Keys. C'est un remix, vous l'avez reconnu d'ailleurs, d'une chanson qui s'appelle Calma. C'est sorti en octobre dernier et ça fait un énorme carton. On est ravis de vous faire découvrir ce titre remixé sur France Bleu.
France Bleu.
Nous accueillons Alice. Bonjour Alice, bienvenue.
Bonjour, comment ça va?
Bah bien, vous avez l'air en forme vous Alice, dites donc.
On a déjà la réponse pour vous, on sait que vous allez bien.
Vous êtes dans les Yvelines Alice.
Oui, tout à fait.
Et alors,
là, dites-moi.
Non, alors j'avais une question, le dicton c'est à la Saint-Médard, s'il pleut à la Saint-Médard, il pleuvra combien de jours plus tard?
40 jours.
Mais oui, sauf si la Saint-Barnabé, etc., etc. Donc c'est la bonne réponse Alice, on vous envoie la montre France Bleu Sport, c'est gagné, mais vous alliez nous dire que vous partez en balade, c'est ça?
Alors, je pars faire un cours de postural ball.
Qu'est-ce que c'est,
donc,
ça?
C'est de la gym avec un grand ballon.
Grand.
Et grand, énorme.
Bon.
65 cm
ah oui.
De diamètre.
Bah alors, on souhaite de bien vous muscler, Alice. On vous fait une énorme bise. Merci pour votre joie de vivre en ce mardi. Ça fait du bien.
Une énorme bise à tous les deux et à toute l'équipe, bien sûr, de France Bleu.
On transmet. Merci beaucoup,
merci
Alice.
Beaucoup.
Bon cours à vous de gros ballons. À bientôt. Au revoir, Alice. À suivre dans une heure en France, c'est Zazie avec un petit peu de musique.
France Bleu. France Bleu et M6 craquent pour le bon pain. La meilleure boulangerie de France continue son road trip et ça se passe en Normandie, ce soir à 18h40 sur M6. Des boulangers, leur pain et leurs spécialités parfois étonnantes, à découvrir aussi avec France Bleu. Pour ne pas perdre une miette de la meilleure boulangerie de France sur M6, rendez-vous sur France Bleu et sur francebleu.fr.
S'il suffisait,
Céline Dion, la voix. Les succès, l'attente est terminée. Courage, la tournée mondiale de Céline Dion avec France Bleu à Paris La Défense Arena les 26, 27, 30 juin et 1er juillet. Réservation dès le 9 octobre dans les points de vente habituels. Céline Dion en concert France Bleu avec M6 et BFM TV. Plus d'infos sur francebleu.fr.
francebleu.fr. Toute la musique de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.
Signaler sur le réseau SNCF, la ligne C du RER est interrompue entre Dourdan et Brétigny dans les deux sens. Pas de retour à la normale avant 15h30, il y a eu un accident en gare de Saint-Chéron. Accident également ce matin à la gare de Trilport, là on est sur la ligne P du Transilien. Même conséquence, il n'y a plus de train entre Meaux et Château-Thierry et entre Meaux et la Ferté-Milon. Ça devrait reprendre vers 14h sur les routes. Léger ralentissement sur le périphérique intérieur de la porte de la Chapelle à la porte de Bagnolet. Et puis une autre difficulté, elle est due à un accident sur le tronc commun de l'A4 et de l'A86 extérieur à Joinville en direction de la province. Il faut 20 minutes pour traverser le ralentissement.
Je suis un salpé des millions.
Zazie qui est partout en ce moment, elle a aussi écrit une chanson pour la jeune Maëlle, Toutes les machines ont un cœur, très beau titre. Ici nous écoutions Je suis un homme.
Une heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
Parmi tous les plastiques qui seront interdits à partir du 1er janvier prochain, ce qui fait précisément 3 mois.
C'est dans 3 mois, ouais.
Voilà, les gobelets, les pailles. On trouve aussi les cotons-tiges, trop nocifs pour la planète. Alors comment se passer de ce bâtonnet ouaté pour se laver les oreilles autrement?
Eh bien, on a trouvé en Bretagne, à Liffré, près de Rennes, où un couple a créé un cure-oreille écologique en bois et en inox médical. On découvre?
Mais oui, avec Escurette. C'est le nom de l'entreprise spécialisée dans la toilette des oreilles. Bonjour Briac Prévost.
Oui, bonjour.
Alors, vous expliquez que vous n'avez rien inventé. Vous avez remis au goût du jour un instrument qui existait il y a très longtemps.
Ben oui, tout à fait. On se rend compte que dans nos sociétés modernes, on est passé tout coton-tige. Et pour autant, dans les tiroirs de nos grands-parents, années 20, 30, 50, cet accessoire existait déjà. Et même bien au-delà. On en parle déjà au Moyen-Âge. On en trouve trace aussi en Antiquité.
Briac Prévost, ça fait longtemps que vous y avez pensé? Vous avez une conscience écologique?
Oh ben oui, le cure-oreille, en fait, Sylvie l'a dans sa trousse de toilette déjà depuis une bonne vingtaine d'années.
Ah oui.
Et puis là, on s'est rendu compte qu'en effet, les cotons-tiges en plastique allaient être interdits. Donc c'était l'opportunité, je dirais, de se réapproprier ce petit accessoire, de le revisiter et de lui redonner les valeurs qui sont les nôtres.
Alors, à quoi ressemble le cure-oreille? Si on a Internet sous la main, on peut aller sur francebleu.fr, mais pour ceux qui n'ont pas Internet sous la main, à quoi ça ressemble? D'ailleurs, vous avez remarqué, on ne dit pas coton-tige parce qu'il n'y a pas de coton.
Non, on parle bien d'un cure-oreille. En fait, il est constitué de 2 ou 3 parties. Première partie, donc la partie qui rentre à l'entrée du conduit de l'oreille, qui est une partie réalisée en inox médical. On se met pas n'importe quoi dans les oreilles.
Non.
Et pour toute l'autre partie, donc partie manche et capuchon, c'est réalisé en bois de charme, en bois français. Mmh. Et on a fait une superbe rencontre. Un tourneur d'art, Jérémy, qui est basé à proximité de Brocéliande et qui, au sein de son atelier, usine et les manches et les capuchons.
Et le bois vient des Vosges, hein?
Le bois vient des Vosges. En fait, on a un souci écologique, enfin un souci, une volonté écologique. Donc, c'est du bois qui est géré par des forêts de label PEFC, un label environnemental. Donc, le bois vient des Vosges. Et ensuite, comme c'est un accessoire un peu personnel, on l'a teinté pour lui donner des couleurs différentes et des teintes qui restent écolo à base d'eau et de pigments naturels.
Et comment on le nettoie? De l'eau et du savon ou on passe de l'alcool après chaque passage? Comment on fait?
Voilà, alors la précaution, donc, enfin pour le nettoyer, je dirais qu'on va le passer tout simplement sous de l'eau savonneuse. Mmh. Et en effet, vous avez raison de le préciser, c'est de l'inox médical, donc ça peut être désinfecté tout au long de sa vie et au moins avant une première utilisation.
D'accord.
Mais un petit peu comme un couteau, c'est bien l'aspect métallique qu'on nettoie et non pas le manche.
Bien ouais. Sûr, bien sûr.
Enfin, c'est pas un couteau très pointu, j'espère.
Heureusement.
Non, c'est vrai, la comparaison avec le couteau.
Ah, d'accord.
Mais parce que c'est quelque chose, au contraire, c'est vrai que l'aspect métallique est souvent, nous, en fait, il y a 4 mois qu'on va au-devant du grand public. Et lors de ces rencontres-là, c'est vrai qu'on voit parfois une réticence à se dire, oh là, du métal dans mes oreilles. Mais pour autant, le spécialiste, jamais il mettra autre chose que de l'inox médical dans vos oreilles.
Mais du coup, il y avait d'autres alternatives aussi, les sprays. Vous en pensez pas forcément du bien?
Ah ben, alors après, nous, c'est vrai que je crois qu'on a tous une méconnaissance de notre oreille. Moi, je suis surpris. Je me suis intéressé vraiment forcément à tout ça. Et on se l'est fait préciser par des professionnels de santé tout au long de nos sorties. On a une méconnaissance de l'oreille. L'oreille, c'est hyper délicat. Alors, on va parler de spray, forcément. Moi, je vais vous dire que c'est peu écologique. Je vais vous dire que laisser mariner quelque chose dans ses oreilles. Après ça, il n'y a pas que cette alternative-là. On trouve aussi des l'alternative la plus répandue, c'est l'auriculi.
Japonais, ça.
Voilà, un accessoire en bambou. Moi, j'ai tendance à dire que ça reste du bois, c'est fragile. Mmh. Et des clients nous l'ont fait constater lors de leur utilisation.
Et le cure-oreille est adapté pour les ORL qui déconseillent à 90% pratiquement le coton-tige. Mais là, il n'y a plus de coton, donc ça fonctionne.
Voilà, il n'y a pas de coton, donc on ne risque pas de se créer des irritations dans l'oreille avec le coton. L'inox reste doux dans votre oreille. C'est une utilisation qu'on fait uniquement à l'entrée de l'oreille. L'oreille est bien faite, hein, elle s'auto-suffit à elle-même. C'est une utilisation qu'on va faire maximum une fois par semaine.
Alors, il y a beaucoup de points de vente aujourd'hui. C'est à quel prix, les scurettes ?
Alors, deux modèles aujourd'hui sur le qu'on propose, avec ou sans capuchon. Capuchon pratique pour la trousse de voyage, la trousse de toilette. Donc et pour l'hygiène. Le prix, eh bien écoutez, on les propose à 7,60 € TTC en prix de vente conseillé et 9,90 € le modèle avec capuchon.
Bah, vous nous alors, avez convaincu.
Nous fabricants, c'est vrai qu'on s'appuie sur tout un réseau de distributeurs parce que lors de nos sorties, de nos rencontres, eh bien, les commerces de proximité se sont intéressés à notre projet. Oui. Et du coup, aujourd'hui, on est content d'avoir une cinquantaine de boutiques qui diffusent notre cure-oreille en France et également au-delà de nos frontières. On est allé faire un tour en Belgique et forcément, les Belges s'équipent aussi.
Eh oui, parce qu'ils ont des oreilles aussi.
On a plus des oreilles.
Escurette, le cure-oreille.
Merci pour cette conclusion. Oui, les Belges ont aussi des oreilles. Merci beaucoup, beaucoup.
C'est moi qui vous remercie de votre attention.
Et on vous souhaite une belle journée. À
également.
Bientôt. Au revoir. On joue pour une station météo France Bleu maintenant. Elle est là, elle vous attend. Dites-nous si vous avez bien écouté avec vos oreilles. Donc, de quelle région vient le bois qui sert à la fabrication de l'escurette? Pas de proposition, normalement vous avez la réponse.
D'où il vient? Non pas là où il est tourné.
Non, d'où il vient? Vous nous appelez 0810 055 056. Le temps d'écouter Patrick Coutin qui aime bien regarder les filles.
J'aime regarder les filles qui marchent.
Bon, arrête Patrick maintenant, ça va 30 zinzin à force là. Répétez, j'aime regarder les filles, on a compris. C'était évidemment un classique de Patrick Coutin sur France Bleu. France Bleu. Et nous accueillons Christian qui est avec nous depuis la Franche-Comté. Bonjour Christian, bienvenue.
Oui, bonjour Frédéric, bonjour Denis.
Bonjour Christian.
Vous êtes où en Franche-Comté, Christian ?
Val-d'Oise, c'est à côté de Belfort.
Ah d'accord, parce qu'il y a eu un petit temps, là, je pensais que vous n'étiez pas sûr d'être en Franche-Comté.
Ah non, non, Bon. Je suis bien à Val-d'Oise.
D'accord, et quel est le temps aujourd'hui en Franche-Comté, Christian ?
Bah, écoutez, c'est éclairci. Il y a un petit rayon de soleil maintenant là, mais c'est
mitigé.
Oui, c'est mitigé, voilà.
D'accord.
C'est couvert avec des rayons de soleil qui transpercent un peu, quoi.
Mais du coup, il y a une station Météo France Bleu qui vous attend.
Ah bah écoutez.
Comme ça, on sera hyper précis. Christian, oui. Je vous demandais de quelle région vient le bois qui sert à la fabrication de l'escurette, ces cure-oreilles dont on a parlé il y a quelques minutes sur France Bleu.
Les Vosges.
Les Vosges.
Au-dessus de chez vous.
Ah, absolument, c'est à quelques kilomètres. Le ballon d'Alsace est à...
Ah, rien du tout, à vol d'oiseau.
Chez moi.
Ouais, c'est ça.
Et Christian,
oui.
Vous, ça vous tente l'escurette, là, comme ça? Vous utilisez encore des cotons-tiges?
Ah bah écoutez, j'ai encore une boîte de cotons-tiges, mais je sais que c'est...
Faut la terminer, Christian. Ouais.
Après le 1er janvier, même s'il vous en reste, vous les mettez de côté.
Exactement.
Oui, bah j'utiliserai l'escurette.
Eh ben voilà. Christian, on vous envoie la station Météo France Bleu. On vous fait une grosse bise par la même occasion.
Ben, pareillement, merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée, à bientôt, Christian. Au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir. Et nous découvrons maintenant le tout dernier titre de Céline Dion qui revient pour une tournée avec France Bleu. Je vous donne les dates après Imperfections.
Try to give all myself to you, but before I can get there, got parts of me I'm trying to lose. Yeah, I got my own imperfections, I got my own set of scars to hide, I got my own imperfections. Can't hold your heart when I'm fixing mine. So give it up, I ain't gonna say. Give it up now. Give it up, I ain't gonna say. Give it up now. 'Cause I got my own imperfections. I can love you.
premier extrait de l'album Courage qui sortira le 15 novembre. Céline Dion que nous entendions avec Imperfection. Elle sera en concert avec France Bleu à Paris les 26, 27 et 30 juin ainsi que le 1er juillet.
Juste après l'arrivée de l'été.
Merci, merci pour cette information, Denis.
Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Ternier sur France Bleu.
Et voilà une histoire comme on les aime dans Une heure en France, celle d'un tableau perdu il y a plus de 100 ans qui a récemment retrouvé sa place dans l'église des Ifs dans le Calvados en Normandie.
On retrace le parcours de cette peinture, ce que l'on sait en tout cas, enfin, elle a retrouvé sa place d'origine et ça c'est très bien.
Et nous sommes avec la conservatrice déléguée des antiquités et objets d'art du Calvados. Bonjour Armelle Dalibert.
Bonjour.
Première chose, qui a peint ce tableau et qu'est-ce qu'il représente ?
Ah bah vous commencez par une question à laquelle je peux répondre uniquement partiellement parce qu'on ne sait pas qui a peint ce tableau.
D'accord.
Déjà. Et par contre, ce qu'il représente, je vais essayer de vous décrire. J'ai vu que vous l'aviez mis en photo là sur le site de France Bleu.
Et bravo.
N'est-ce pas ? Quand vous êtes face à ce tableau, donc il se divise en deux parties avec à droite un personnage debout qui tient, donc est de face, et qui tient une croix en forme d'X, et il montre avec sa main la scène qui est à l'arrière-plan sur la gauche du tableau, du coup, qui est un peu barbare, pour le coup, c'est son martyr. Donc en fait, il est quasi nu, en train d'être attaché sur cette fameuse croix en forme d'X, et il est battu par 6 personnes. Donc c'est, bon, un peu ragoûtant. Et le tout sur fond de paysage, avec pas mal de bâtiments antiques. Donc voilà. Si on ne sait pas qui a peint ce tableau, par contre, on sait qui a peint l'original, parce que c'est une copie. Et donc, il fait partie de la suite d'estampes faites par un peintre d'Anvers qui s'appelait Martin Devaux. Donc voilà, on sait de ce tableau.
D'accord. Alors, on sait que ce tableau était encore dans l'église du village en 1884. Ensuite, mystère, le tableau n'est plus là. On a une idée d'où il était dans ce siècle ?
On a essayé de pister les choses. C'était la première chose quand ce fameux coup de fil a eu lieu en août 2018. L'idée, c'était de savoir à qui appartenait le tableau, si ça appartenait à la mairie ou si ça appartenait, si ça ne lui appartenait pas. Et pour déceler ça, il fallait qu'il soit noté, inscrit sur l'inventaire de 1905 au moment de la loi de séparation des églises et de l'État. Or, sur cet inventaire de 1905, le tableau n'apparaît pas. Donc il a fallu chercher un peu plus en amont. Et c'est vrai que c'est des histoires comme on les aime parce que on a la chance dans le Calvados d'avoir un érudit qui s'est baladé un peu dans toutes les églises du département au 19e. Et à chaque fois, il décrit précisément ce qu'il voit. Donc on a des comptes rendus et il est passé 10 fois dans l'église d'If entre 1881 et 1902. À chaque fois, il décrit le tableau, sauf en 1902. Donc c'est hyper frustrant parce que 1905 n'est pas loin. Et en fait, en 1902, il dit clairement que le tableau a été enlevé au profit des œuvres de l'actuel curé, enfin de l'actuel curé de l'époque, hein, le père Chapsal, qui peignait et qui visiblement a préféré mettre ses propres œuvres à la place des œuvres anciennes. Et si. Donc on perd sa trace en 1902, malheureusement.
Et donc du coup, c'est il y a quelques mois, vous nous l'avez dit, c'est un antiquaire de l'Aveyron qui vous a téléphoné pour vous dire.
Exactement. Ouais, donc ça c'est pareil, je tiens à souligner quand même la démarche parce que c'est extrêmement rare. Donc c'est un antiquaire du sud de la France, donc qui s'appelle Pierre Clémenceau, qui a contacté la mairie d'If, donc en la personne de sa chargée de communication Adèle Surville, que je remercie aussi parce qu'elle s'est passionnée pour l'affaire, elle a pas lâché jusqu'à la semaine dernière, et son maire bien entendu, Monsieur Patard Legendre. Donc il les a contactés en disant j'ai un tableau. Il y a une inscription dessus, j'ai fait des recherches et visiblement ce tableau était dans votre église. Donc c'était un peu une espèce de miracle qui arrivait.
Comme quoi,
Et en fait, il a vraiment fallu qu'il cherche puisqu'il n'y a pas du tout noté sur le tableau en lui-même qu'il vient de l'église d'If noir sur blanc. C'est juste noté le nom du prêtre, du curé du début du XVIIe siècle. Donc il a quand même fallu qu'il recherche des choses. Et effectivement, donc c'était le curé et le président de la fabrique de l'église au tout début du XVIIe qui sont notés sur le tableau.
Donc
c'est comme ça qu'on a pu savoir que c'était bon.
Des recherches évidemment. Là, vous êtes assuré que c'était le bon tableau. Il a fallu le réacclimater et vous avez enfin pu le présenter lors des journées du patrimoine.
Oui, alors le problème, c'est qu'il venait du sud de la France. Alors je dis pas que chez nous, c'est un peu plus humide, mais presque. Et quand il est arrivé en septembre 2018 à la mairie d'If, eh bien, on s'est aperçu que dans l'église où il était censé retourner, il y avait plus de 80% d'hydrométrie, donc d'humidité. Ah, ouais. Donc il pouvait pas passer, vu que c'est un tableau qui est peint sur bois, il pouvait pas passer du sud où il fait chaud et du bureau de la mairie où c'est chauffé à l'église comme ça. Et donc on a essayé d'attendre que le climat se rapproche entre les deux, mais impossible. Ce qui fait que c'est Monsieur Grindorge hein, qui est restaurateur dans la région et qui est le seul équipé pour pouvoir faire ces fameux paliers d'acclimatation et le tableau a pu être installé aujourd'hui. Oui,
vous aviez raison, toutes les deux. C'est une histoire comme on les aime. Le tableau disparu il y a plus de 100 ans qui a retrouvé sa place dans l'église.
Merci beaucoup de nous avoir raconté cette histoire, Armelle Dalibert. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Bonne journée.
Bonne journée.
En Normandie dans le Calvados. À bientôt. Au revoir.